Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Salut, c'est Lucie, la reine, l'émission d'info locale de Canal B s'apprête à commencer. Et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, une enquête sur la santé mentale à Rennes, interview en compagnie de Guillaume Meurice, désormais rennais, avec plusieurs rencontres et représentations à venir dans le coin. Il y aura de la musique, dont une nouveauté, la rediffusion d'un échange avec deux collectifs qui militent contre l'artificialisation des sols, et puis une recommandation en octobre, tous dehors. Allez, bienvenue dans l'arène. Et on commence comme chaque jour avec une info retenue pour vous du mardi 17 au vendredi 20 octobre. Une enquête est menée auprès des Rennais sur le thème de la santé mentale. Aux manettes, on retrouve le centre collaborateur de l'OMS, Organisation Mondiale de la Santé, le centre hospitalier Guillaume Régnier et puis la ville de Rennes. Durant ces 4 jours, vous ferez donc peut-être partie des 1000 habitants interrogés par l'un des 90 enquêteurs. Ce sont en fait des étudiants de l'Institut de formation des professionnels de santé et du centre hospitalier Guillaume Régnier, des étudiants qui seront mobilisés à la fois sur l'espace public mais aussi au sein d'équipements recevant du public. L'enquête, elle prend la forme d'un questionnaire anonyme avec l'idée de comprendre les représentations que se font les habitants des maladies mentales et des différentes possibilités de les soigner. Une façon d'affiner à terme la politique de soins en fonction des besoins des habitants. Et après l'info du jour, eh bien c'est le moment d'une interview en compagnie d'un humoriste Canal B compatible, je crois, et en plus de ça, très sympathique, avec un goût marqué pour le débat, vous allez le voir, avec une discussion qui a commencé avant l'interview à proprement parler.
Perfect.
Tu n'aimes pas le vouvoiement ?
Plus exactement, je m'en fous. Mais on peut se vouvoyer, non ? On va se vouvoyer.
Ouais.
Mais oui, parce que là, c'est
un
code.
Il y a un débat là-dessus, mais moi, c'est pareil. J'ai toute mon explication là-dessus.
Ah,
sur
alors,
le vouvoiement. Mais enfin,
ça exclut l'auditeur, disent les professionnels de la profession. Qu'on a l'impression que ça fait tout de suite bande de potes au café.
Non, enfin, moi, le curseur, je le mets sur est-ce que je connais ou est-ce que je connais pas.
Et ouais.
À partir du moment où je connais pas, je vouvoie.
Bah, alors, on se connaît
après,
maintenant.
Après, que ce soit une personne exilée, que ce soit un homme politique, et ben du coup, j'essaye de montrer la même marque de respect de l'inconnaissance à tout le monde.
Ouais, je comprends. C'est un vrai sujet. Parce que moi, j'ai le tutoiement vraiment facile.
Okay.
Donc, que ce soit, comme tu dis, un exilé ou un ministre, j'ai l'inclination à tutoyer naturellement. Mais quelqu'un de mon entourage me faisait remarquer que c'est pas la même chose quand tu tutoies une caissière. Ça peut passer pour elle, en tout cas pour un manque de respect, puisque les codes de la société sont. Le vouvoiement est une marque de respect. Ce que je trouve con. Mais ça, oui, il y a des petites, il y a des petits biais comme ça. Faut se méfier de ça. J'avais jamais fait gaffe, mais en fait, ça dépend comment ça peut être perçu.
Le débat est lancé.
Ouais, c'est un vrai. Alors là, là, c'est intéressant. Parce que ça interroge les structures de domination.
Ouais, ouais.
Et c'est un tout petit peu ma passion dans la vie, donc ça tombe très bien.
Bon, bonjour Guillaume Meurice.
Bonjour, bonjour.
Pour reprendre, tiens, une question centrale dans nos vies, vous en parlez dans votre livre sur lequel on va revenir. Vous faites quoi dans la vie ? Comment est-ce qu'on vous présente ?
Ah, ben je fais plein de choses. Professionnellement, on va dire, avec quoi je gagne ma vie. Je suis humoriste, principalement. Je fais des blagues sur scène et à la radio. De moins en moins à la radio, mais encore un petit peu. Et après, je fais plein de choses. J'écris des livres, j'écris des documentaires, des escape games.
On va arriver à ce qu'on va pouvoir découvrir ici dans la région rennaise. Je vous représente pour les auditeurs qui écoutent tellement Canal B qu'ils ne s'arrêtent jamais sur la fréquence qui est juste voisine de France Inter. Vous êtes donc humoriste, chroniqueur radio, auteur aussi et donc rennais depuis quelques temps. Vous avez confié à un média local que vous aviez l'impression d'être en gauchistan. Ça veut dire que vous êtes en terrain conquis. C'est plus facile d'être ici qu'à Paris.
À Paris, c'est plus neutre, mais je me rends compte, comme je fais beaucoup de tournées avec mes spectacles respectifs, que par exemple à Nice, je fais beaucoup moins de selfies. Alors qu'à la gare de Rennes, dès la gare de Rennes, dès la descente du train, souvent on me reconnaît. Donc oui, c'est sûr que je me sens un peu plus en safe place, comme on dit aujourd'hui.
On a plusieurs choses à annoncer en lien avec les différents projets que vous présentez au public. Il y a d'abord tous les dimanches soirs votre participation à cette émission sur France Inter. L'émission Par Jupiter, elle a été un petit peu punie et passe depuis la rentrée d'un format quotidien à une émission hebdomadaire. Ça reste une émission de 2 heures en public le dimanche soir. Je me demandais si ça changeait l'esprit de troupe qui, quand il est alimenté au quotidien, peut-être pas le même qu'avec cette version-là depuis la rentrée.
Ça change pas l'esprit, mais ça change beaucoup, beaucoup l'organisation, puisqu'on était de nombreux chroniqueurs. Je crois qu'on était 25, je crois, au fil des ans, comme on a rajouté des gens au fil des saisons. Alors, pour le planning, là, c'est une énorme galère. Heureusement, c'est pas moi qui gère. Mais je vois pas mal Charline s'escrimer à trouver des cases pour tout le monde, ce qui est tout à son honneur, puisque quand on est passé en hebdo, le risque, c'était de ça, c'était de virer... la moitié de la troupe, parce que on pouvait pas se permettre de prendre tout le monde. Alors il y en a qui viennent moins, c'est sûr. L'émission a été bâtie autour de 4 piliers qui sont Charline, Émeric, Juliette et moi, et puis après des chroniqueurs qui tournent en fonction de leur dispo et puis en fonction des dispos de l'émission.
Hier soir, vous vous êtes retrouvés à animer le jeu 100 euros, oui. En lien avec les budgets que vous avez.
Voilà, 100 euros, donc il n'y a pas d'euros.
Il n'y a pas d'euros. Et on retrouve aussi vos chroniques avec le ton qu'on vous connaît, qui était déjà présente dans l'émission, dans sa version précédente.
Le travail, c'est vachement bien.
Le travail, c'est vachement bien. Et vous le savez, parce que là, regardez, là, vous êtes en train de travailler, et finalement, c'est bien.
Eh ben, c'est super. Eh ben, voilà, Jimmy, il est comme ça. Voilà, je travaille et c'est bien. Alors, c'est bien, pas pour tout le monde. Hein. Sinon, on serait en quotidienne encore à 17h sur France Inter. Mais c'est vrai que je suis en train de travailler. Mon travail consiste à raconter des conneries, ce que BFM TV appelle un expert. Voilà, c'est un travail. C'est un travail. Allez.
Cet automne, vous continuez aussi à présenter votre petit éloge de la médiocrité qui est paru au mois d'avril aux éditions des Pérégrines. Et vous serez par exemple mercredi 18 octobre à 18h30 à la librairie Le Refuge. C'est à Guichin, pas très loin de Rennes.
Je serai même à 18h.
En avance.
Ouais, on m'a dit, mais viens en avance à 18h, il va y avoir du monde, ça va être cool. Alors j'ai dit, ok.
Médiocre, c'est un mot qui a une connotation très péjorative, ça ne veut pas dire mauvais, il faut redonner sa signification. Ça signifie de qualité moyenne qui tient le milieu entre le grand et le petit, et vous jugez médiocre, c'est pour ça que vous autoproclamez expert sur le sujet. C'est le point de départ à ce petit ouvrage. Est-ce que vous ne rencontrez pas un peu trop de succès populaire pour vraiment l'être, médiocre ?
Ouais, c'est une question que m'a posée mon éditrice. Elle m'a dit, le risque de ce genre de bouquin, c'est qu'on va penser que c'est la fausse modestie, alors que moi, je me considère vraiment comme médiocre. Mais il suffit de faire quelque chose de son artistique pour voir qu'on est très, très limité, qu'on a énormément de doutes. Et ça, vraiment, tout le monde peut toucher du doigt, hein, parce qu'il suffit pas... Enfin, je parle pas simplement des gens qui gagnent leur vie en faisant une profession artistique. Même si on fait du théâtre en amateur, de la peinture en amateur, on va se retrouver confronté à nos limites assez rapidement. Et à dire, oh merde, c'est nul, je sais pas, c'est pas bien, je voulais faire ça, puis j'ai pas réussi. Et ça vaut pour tout le monde. J'ai constaté ça, moi, en pratiquant. Et c'est pourquoi je m'interroge beaucoup sur toutes ces questions de classement, de hiérarchie, de mettre des gens au-dessus des autres, de concours. Par exemple, moi, en tant qu'humoriste, il y a eu beaucoup de concours. Alors, comment on peut juger qu'un sketch est meilleur que l'autre? Est-ce qu'on compte les rires? Enfin, tout ça n'a vraiment aucun sens. J'ai retourné la situation dans ma tête et je me suis dit, mais tout ça n'a aucun sens. Cette vision verticale nous pollue la tête, alors qu'une vision horizontale, je trouve, serait beaucoup plus saine et beaucoup plus conforme à la réalité.
À quel moment vous avez lâché prise? J'ai vu que vous aviez fait Sciences Po avant de lâcher l'affaire.
Alors, j'ai pas fait Sciences Po, mais j'ai eu des cours communs avec les Sciences Po. J'étais à l'IEP d'Aix-en-Provence. J'étais pas très assidu, donc non, j'étais pas dans la compétition. C'est beaucoup des lectures qui m'ont fait prendre conscience de ça, et notamment Albert Jacquard, qui est un scientifique qui est décédé il y a quelques années et que j'aimais beaucoup. Je crois que j'ai tout lu ses livres, et qui parlait énormément de son rapport à la compétition, avec notamment un livre qui s'appelle Halte aux Jeux, qui parlait des Jeux Olympiques et de l'hypocrisie de l'essentiel c'est de participer, puisqu'on voit bien que pas tellement.
Il y en a quand même qui sont médaillés.
Ouais, il y en a quand même qui ont des médailles. Il disait quelque chose qui m'est bien plu à l'époque, c'était il disait si le quatrième il pleure parce qu'il n'y a pas de médaille. Il suffirait de donner une médaille au quatrième et ce serait le cinquième qui pleurerait. Donc tout ça n'a vraiment aucun sens. Et c'est ce genre de lecture et des discussions avec mon père, parce que c'est mon père qui m'a conseillé de lire Albert Jacquard, qui m'ont fait prendre conscience de l'absurdité de la chose.
Peut-être qu'on s'en fout d'avoir cette tête, d'avoir un bouton sur le nez ce matin, ou le nez sous les boutons pour les adolescences difficiles. Peut-être qu'on pourrait se détacher de l'envie de se démarquer en voulant ressembler à tout le monde. L'anthropologue René Girard parle d'un désir mimétique qui nous incite toutes et tous à imiter les autres. Le temps est venu de faire preuve de vigilance, de ne pas aveuglément suivre une mode ou un influenceur qui tweete son plat de coquillettes aux truffes depuis Acapulco ou sa morning routine depuis Bagnolet. Au-delà de la simple apparence, peut-être qu'il serait judicieux de ne pas avoir à subir la pression venue des névroses des autres. Ce petit éloge de la médiocrité, il a presque une couleur un peu révolutionnaire dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et il fait plutôt du bien, vous défendez l'idée qu'on est tous moyens, qu'on devrait se le remettre en tête pour plein de raisons, pour la planète, contre le pouvoir, contre la société d'évaluation. Est-ce que le risque d'être serein avec sa propre médiocrité, c'est pas de renoncer au chef-d'œuvre dans n'importe quel domaine, hein, les sciences, la culture
Ça dépend de la définition d'un chef-d'œuvre. Moi, j'y crois pas tellement. Je pense que Léonard de Vinci regardait la Joconde et il se disait « Merde, j'ai peut-être raté... »
Son sourire.
Oui, dans le bouquin, je parle de son sourire, mais si ça se trouve, c'est l'arrière-fond, je ne sais pas. Enfin voilà, dès qu'on est à l'intérieur du processus de création, on se rend compte de tous nos échecs, comme je le disais à l'instant. Donc je ne crois pas tellement à la notion de chef-d'œuvre. Il y a des œuvres qu'on considère comme mythiques, mais alors il faudrait se poser la question de pourquoi, la part de mystère, qu'est-ce que nous, on projette sur l'œuvre qu'on considère comme un chef-d'œuvre. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses derrière qui sont au-delà du simple fait artistique.
Et au-delà de la notion de chef-d'œuvre, vous réfléchissez aussi à celle de génie en évoquant notamment celui de Charlie Chaplin. Peut-être qu'il avait du génie, mais c'était quelqu'un de pas très sympathique. Des fois, ça peut pousser aussi dans des côtés obsessionnels de rechercher justement le chef-d'œuvre.
Vous voyez ça, au-delà de sa propre personnalité, c'est quelqu'un qui ratait énormément de choses parce qu'il est connu justement pour refaire ses prises un nombre incalculable de fois. Je crois qu'il y a un record, il faudra vérifier, parce que les sources d'Internet, il faut toujours vérifier plusieurs fois, mais qui parle de 200, 300 prises pour une séquence. Oui, comme vous le disiez, c'est quelqu'un d'obsessionnel, mais c'est surtout quelqu'un qui a passé la plupart de sa vie professionnelle à rater des choses. Enfin, lui considérait que c'était raté, donc il refaisait. Donc, ce n'est pas du tout l'idée qu'on a d'un génie qui arrive et qui est tout de suite brillant, éclatant. Et c'est intéressant de se poser la question, pourquoi dans la société, il y a des gens qu'on considère comme ça, comme des génies. Moi, je pense que ça sert un discours dominant, ça sert un discours de domination, de « il y a les génies, puis vous, bah désolé, vous êtes juste les autres ». C'est comme la notion de talent, il y a des gens qui ont du talent et puis il y a des autres. Moi, on me dit « ah, j'aimerais bien faire du théâtre, mais j'ai pas le talent ». Mais je comprends même pas la phrase. Bon, il n'y a pas besoin de talent, il faut monter sur une scène, s'amuser, progresser.
Travailler quand même.
Beckett, il disait « rater, rater à nouveau, rater mieux ». C'est ça, en fait, il n'y a pas vraiment de but, il n'y a pas vraiment d'objectif, il faut le faire. Mais ça sert à un discours dominant qui est rester à votre place. Il y a des gens qui ont un talent, ils sont à leur place, génie, ils sont à leur place, et ça sert à la notion de mérite. Et ça, ça m'énerve. Alors avant, je le disais comme ça, des interviews, je l'ai dit dans mon livre, et puis il y a un livre qui est sorti quasiment en même temps que le mien, d'une neuroscientifique qui s'appelle Sama Karaki, qui est quelqu'un vraiment que j'adore et son travail est exceptionnel, qui s'appelle « Le talent est une fiction ». Et ça m'a bien plu qu'elle sorte. C'était pas prévu du tout, hein, qu'elle sorte en même temps que le mien. Je la connaissais pas avant. Et on s'est rencontrés, on a bu des cafés et effectivement, on est sur la même longueur d'onde. Et maintenant, je peux me poser sur la science.
C'est prouvé.
Pour dire, voilà, je ne suis pas tout seul à penser de ça.
Votre idée avec ce petit éloge de la médiocrité, c'est d'essayer de se mettre en tête que la réussite ne devienne pas la seule et unique cause de notre mise en mouvement. Au fil des pages, on retrouve vos cibles favorites qui prennent des pics, la caste politique, les flics, les misogynes aussi. Et en fait, parler de médiocrité, ça permet de parler de plein de choses, de pouvoir, de hiérarchie, de compétition, et puis qu'on retrouve dans beaucoup de sphères de nos vies, politique, entreprise, sport, consommation, etc. Notre société aujourd'hui classe les bons et les mauvais. Je pense que ça a été le cas dans la plupart des moments de notre histoire. Ce qui est particulier aujourd'hui, c'est que ça s'inscrit dans une société très capitaliste avec cet enjeu climatique qui, on sent qu'il revient souvent et qui vous questionne.
Ouais, bah c'est toujours la même problématique qui est la question du dépassement, des limites et de ce genre de choses, de la quête de la performance.
Là, on arrive au bout, quoi.
Qui est très liée à la compétition. Ouais, on arrive au bout de notre propre compétition contre nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on est en train de foutre en l'air les conditions même de notre existence. À force de les fameuses dépasser ses limites, les fameuses limites, on les a tellement dépassées que on va crever, purement et simplement. Donc, on est vraiment arrivé au bout de l'absurdité, j'ai envie de dire, c'est le bout de la démonstration. Seulement, on sera peut-être plus là pour le constater, quoi. C'est dommage.
C'est quand même un livre qui est très drôle, mais on sent quand même aussi beaucoup de colère. l'humour est là pour venir soulager la colère. Il reste plus que ça.
Ouais, c'est vrai. J'ai essayé de que ça soit pas chiant à lire, donc j'ai mis des petites blagues, des exemples, des choses un peu ludiques, parce que moi ça me plaisait aussi d'écrire ça. Je voulais pas écrire un essai sérieux sur la question, mais je voulais quand même la traiter. Et puis l'humour, ça permet ça. Et moi, de toute façon, l'humour, oui, c'est dans mon quotidien quelque chose qui me permet de canaliser les colères ou en tout cas les incompréhensions que j'ai parfois, les stupéfactions que j'ai parfois, et surtout en ce moment face à l'actu.
Faut-il pendre les coachs en développement personnel? Le bonheur, c'est de la merde. Tu vas mourir comme un nul. Autant de chapitres à aller lire dans le détail dans ce livre qui est donc à mi-chemin entre un essai philo et la chronique humoristique. Ça s'appelle Petit éloge de la médiocrité et c'est sorti aux éditions des Pérégrines au printemps. Un ouvrage à aller acheter, pourquoi pas, mercredi 18 octobre à la librairie Le Refuge. Et ce sera aussi un moment pour vous rencontrer. Donc à partir de 18h, on quitte votre livre pour parler de vos projets sur scène. Il y a d'abord un projet collaboratif, puisque c'est une dimension, vous le développez un peu dans le livre, mais qui vous tient à cœur, d'unir les médiocrités. Vous serez sur scène avec l'astrophysicien breton Éric Lagadec pour aller vers l'infini. Il y a une date prévue à Nantes très bientôt, dans 2 semaines, le 1er novembre. Ça fait un moment que le spectacle tourne.
Ça fait un moment qu'il a été créé, enfin, c'est depuis avril, je crois, oui, le printemps, mais il a été joué que 3 fois. Donc on ne peut pas vraiment parler d'une énorme tournée, mais c'est à la base un festival à Strasbourg qui s'appelle le Curieux Festival, qui m'a proposé une carte blanche. Donc c'est un festival qui mêle la science et l'humour. Et comme je suis ami avec Éric Lagadec, je lui ai proposé directement de faire un truc avec lui. On n'avait pas forcément d'idée. Et puis on s'est vu, on a discuté et on s'est dit que l'infini, c'était vraiment un bon sujet. Et on est parti de la fameuse phrase, alors possiblement apocryphe d'Einstein, parce que on n'a pas de source sûre qu'il l'ait dite, mais elle dit ceci: il y a 2 infinis, l'univers et la connerie humaine, et encore pour l'univers, j'en suis pas certain. Ça nous a bien plu. Et on est parti de cette phrase pour explorer l'infini de l'univers pour Eric et l'infini de la connerie pour moi. Donc on fait une conférence à 2 voix, alors avec pas mal d'humour, on rigole beaucoup, mais avec vraiment des vraies connaissances. On apprend vraiment des choses. Surtout grâce à Eric, on va pas se mentir. Ceci dit, je fais un petit peu, moi, de théorie de la connerie, parce qu'il y a des effets, des biais de surconfiance, comme le syndrome de Dunning-Kruger, qui est une espèce de biais de surconfiance qui fait que dès qu'on s'intéresse à un sujet, on a tout de suite l'impression, en tout cas très rapidement l'impression de tout savoir, ce qui a donné des phrases incroyables pendant l'épidémie de Covid, avec des gens qui commençaient leurs phrases par « l'ARN messager dit que… » Alors, ils n'avaient jamais entendu parler de la notion 15 jours avant, puis on est tous un peu comme ça. Donc je fais aussi un peu de théorie de la connerie, et Eric, de son côté, parle aussi de conneries qu'il y a eu dans l'astrophysique, puisqu'il y a des sondes qui se sont éclatées sur Mars parce qu'il y a des erreurs de calcul ou ce genre de choses. Donc on reste dans notre couloir, des fois les couloirs se croisent, et puis ça, au final ça fait une conférence à 2 voix.
À découvrir sur la scène de la Cité des Congrès à Nantes le 1er novembre prochain. Et c'est dans le cadre d'un festival.
Les Utopiales.
Les Utopiales,
ouais, festival, très bon festival
international de science-fiction qui se déroule du 1er au 5 novembre à Nantes. Voilà pour le spectacle Vers l'infini. Autre spectacle en tournée.
Vous c'est un catalogue, ouais, c'est ça.
Il y a un moment, je vais m'arrêter.
Vous vendez aussi votre fuego.
Ce spectacle, c'est Meurice 2027, à voir par exemple sur la scène du Centre culturel d'Argentré-du-Plessis. Argentré-du-Plessis, c'est à côté de Vitré, on est à 30-40 km à l'est de Rennes, puisque, a priori, vous êtes notre candidat, notre sauveur pour les prochaines élections qui s'annoncent de toute façon très réjouissantes.
Bah évidemment, on sent qu'il y a une tendance et que ça va être vraiment une fête. Ça va être une vraie fête populaire en 2027.
Et votre programme ?
Alors, le programme du candidat que j'interprète sur scène, c'est du post-macronisme, j'ai tendance à dire. C'est-à-dire que Macron, il a fait toute sa campagne et ses campagnes en disant « je suis et de gauche et de droite », ce qui était une très bonne vanne, hein, faut l'avouer. Et mon candidat, il dit « je suis à la fois de gauche, de droite, mais d'extrême gauche et d'extrême droite aussi », donc il bouffe vraiment à tous les râteliers. Moi, comme je suis caricaturiste, j'ai essayé de pousser les curseurs au maximum, ce qui est de moins en moins facile, hein, je le précise, parce que la réalité devient vraiment très très caricaturale. Mais on arrive à des situations… Ouais, j'ai une bonne anecdote, c'est que dans mon spectacle, avant, il y avait, pour les propositions, donc je fais des propositions de réforme, il y avait les cols roulés baissez le chauffage, mettez les cols roulés. Et il se trouve que c'est arrivé dans la vraie vie où Bruno Le Maire a vraiment dit ça au premier degré, alors que c'était dans mon spectacle. J'ai été obligé de l'enlever mon spectacle parce que c'était trop...
Vous l'avez peut-être inspiré.
Peut-être qu'il est venu, il s'est caché dans un coin. Donc voilà, j'ai poussé le cynisme de ce genre de personnes et de ce genre de propositions au maximum. Et je dois dire que c'est assez... jouissif de jouer un personnage comme ça.
Et donc on pourra vous retrouver sur la scène d'Argentré. Ce sera le 26 janvier 2024.
Nous sommes réunis ce soir pour un véritable projet pour la France. Attention, j'ai des propositions radicales. Ça va peut-être choquer certains d'entre vous.
On ne l'a pas dit et on n'a pas le temps de le dire. Vous avez aussi publié un autre livre durant l'été. Lancé un podcast sur France Inter avec un ton un peu différent,
oui,
sur l'océan.
Avec des enfants, ouais, des pré-ados qui m'emmènent, qui font une enquête. Alors je les ai un peu guidés, mais on les emmène voir des scientifiques, des militants, des lobbyistes, des ministres, des pêcheurs. Voilà, tout sur la thématique des océans.
Et ça s'appelle Mission Poséidon, c'est à retrouver sur le site de France Inter. Est-ce qu'avec tout ça, vous qui défendez le droit à la paresse et au repos, vous trouvez le temps pour ça?
Oui, parce que tout ce que je fais, c'est de l'amusement. Alors c'est comme si je jouais en permanence, j'ai une chance incroyable de faire tout ça.
Mais c'est presque le message, j'allais dire, du macronisme, de trouver du plaisir dans son travail.
Oui, mais souvent, c'est vraiment de l'hypocrisie. Alors moi, je considère que c'est même pas un travail, ce que je fais, et que j'ai du bol d'être payé pour faire ça. Par contre, je voudrais que le travail, ce qu'on appelle le travail, ce qui devrait être appelé le travail, c'est-à-dire quelque chose de contraint, soit mieux rémunéré. Et ça, c'est assez différent du macronisme.
Merci beaucoup, Guillaume.
Merci Maurice. Pour l'invitation.
Il revient à ma mémoire. Des souvenirs familiers, et il revient à ma mémoire. Des souvenirs familiers, il revient à ma mémoire. Des souvenirs familiers, je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier sur le chemin de l'école. Je chantais à pleine voix des romances sans parole, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Aux maisons sages, où les enfants de mon âge vont partager mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Et des soleils merveilleux au cours de lointains voyages, tout là-bas sous d'autres cieux. Mais combien je leur préfère mon ciel bleu, mon horizon, ma grande route et ma rivière, ma prairie et ma maison. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Mon bonheur.
carte de séjour avec le morceau 12 France sur Canal B. C'était le choix musical de Guillaume Meurice qui est avec nous en studio. Un morceau à retrouver sur l'album 2 et demi qui est sorti en 1986. Carte de séjour, c'était le premier groupe de musique de Rachid Taha, rendu célèbre par cette reprise du célèbre morceau de Charles Trenet. Vous êtes en train d'écouter La Reine, l'émission d'info locale de Canal B, sans doute branchée sur le 94.0 ou peut-être aussi en ligne sur le site canalb.fr. Et on continue l'émission avec une rediffusion, un échange qui a été enregistré il y a quelques semaines, le 13 septembre, avec deux collectifs de la région rennaise en lutte contre des projets d'artificialisation des sols. L'occasion de donner des nouvelles du collectif Araucaria, que vous allez entendre dans un instant. Collectif qui va célébrer la beauté de l'automne, samedi 21 octobre, de 14h à 18h, rendez-vous au 21 avenue Philippe de Volvire, à Sens de Bretagne, pour une installation éphémère façon Land Art, en compagnie de l'artiste Dilik. Un pas de plus pour révéler l'importance du parc centenaire défendu par ce collectif, poumon vert et lieu d'expression des habitants de Sens de Bretagne. Les inscriptions sont conseillées et ça se passe par email à l'adresse collectif Araucaria, Araucaria, @gmail.com. Patrick Bergonier et Anaïs, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, alors vous êtes là pour deux collectifs différents que je reçois aujourd'hui qui ont en commun de se mobiliser contre des projets qui impliquent l'artificialisation de sols naturels ou de sols agricoles. Patrick Bergonier, vous représentez Île Éthique, vous venez de Noyelles-Châtillon-sur-Seiche, c'est juste à côté de Rennes, à 10 km au sud de Rennes. Anaïs, vous êtes membre d'Araucaria sur le territoire de Sens de Bretagne, là on est à 30 km au nord de Rennes. On va commencer avec votre collectif qui réunit une quarantaine de personnes. Vous vous mobilisez un peu dans l'urgence avec Araucaria. À Sens de Bretagne, en cœur de village, il y a un parc d'arbres centenaires qui est sur le point d'être rasé. Est-ce qu'on peut essayer de donner un peu à voir aux auditeurs à quoi ressemble ce lieu aujourd'hui ?
Alors, donc déjà, Sens de Bretagne, c'est un village qui est au nord de Rennes à 20-25 km environ, traversé par une départementale qui est un chemin historique vers le Mont-Saint-Michel. On est dans une commune rurale avec des commerces bien portants. Ce parc, et c'est un parc privé qui est un peu caché, mais qui est en cœur de bourg, puisqu'il est à 200 mètres de l'église. Il contient une centaine d'arbres dont on a fait l'inventaire. De nombreux sont centenaires. Actuellement, on peut s'y promener librement, bien qu'il soit privé, parce qu'il y a un accès creusé au tractopelle pour que les gens qui souhaitent s'y promener ou acheter quelque chose, une parcelle, y aillent. Et donc l'idée, c'est de raser tout d'ici le mois de septembre, d'après les informations qu'on a via le promoteur, pour y construire 14 logements. Et donc nous, nous étonnons vraiment de cela.
La communauté de communes et la préfecture ont en effet donné leur feu vert à la construction de ce lotissement, Domaine de Volvire, ce serait son nom. La commune, vous me dites si je me trompe, va plutôt dans le sens de votre collectif. En tout cas, elle avait demandé à ce que certains arbres soient préservés, ce qui n'est pas dans le projet pour l'instant.
C'est ça, ça a été une demande orale faite au téléphone, donc sans véritable contrat en fait entre le promoteur et la mairie. Donc certes, il y a eu des efforts et des demandes de la part de la mairie, mais qui n'ont pas été vraiment entendues par Urbatis, le promoteur immobilier. Cela dit, c'est un petit peu ambigu aussi parce que malgré tout cela, la mairie a tout de même signé le permis d'aménager. Donc dans l'état actuel, tout est ouvert, tout peut se passer.
Là, on parle donc d'un projet immobilier avec 14 maisons qui seraient construites donc au sein d'un lotissement sur des parcelles qui vont, selon le terrain, de 260 à 747 mètres carrés. Un projet immobilier qui peut donc être perçu comme plutôt vertueux. On sait que dans la région rennaise, il y a des difficultés à se loger, que la métropole est dans une dynamique de construction pour répondre à cette demande d'un nombre d'habitants qui augmente pour le moment. Vous n'êtes pas forcément d'accord sur la dimension vertueuse d'un tel projet immobilier ?
Non, au nom du collectif, on est vraiment en désaccord total avec cette idée. Il n'y a rien de vertueux dans la construction de 14 logements, la viabilisation d'un terrain comme ça, qui a un système d'arbres, un système racinaire extrêmement complexe et lourd, qui a un dénivelé, etc. Non, il n'y a rien de vertueux. Ce serait même plutôt aller toujours dans le même sens de la catastrophe climatique qui s'annonce. Non, on n'est pas dans quelque chose de vertueux.
Le projet de lotissement, il aurait pu être mené en sauvegardant une partie des arbres ou un autre endroit. Vous auriez souhaité qu'il ait lieu, mais pas de cette façon-là.
Alors, il y a eu plusieurs plans, effectivement. L'un de ces plans de la mairie était de construire un petit collectif dans un angle du parc afin de conserver un maximum d'arbres, mais ce n'est pas ça qui a été retenu.
On le redit, l'intérêt d'avoir des arbres, c'est que ce sont des puits de carbone. Ils sont sains pour notre environnement. Là, on parle donc d'une centaine d'arbres, dont certains centenaires, des araucaria, c'est le nom de votre collectif, des cèdres, ginkgo, biloba, des marronniers aussi, qui vont peut-être être rasés au mois de septembre. Souvent, on nous donne l'argument qu'il y a compensation, que ces arbres seront replantés. Le problème, c'est qu'on parle d'arbres centenaires, c'est là que ça coince.
Oui, c'est ça, le temps que ces arbres-là se reconstituent, on ne sera plus là pour en profiter, enfin, il y a le temps de les recouper, etc. Donc là, on parle vraiment, nous, notre souhait au collectif Araucaria, c'est un souhait pour l'intérêt public de la ville de Sens-de-Bretagne, de créer un jardin public, de révéler, valoriser et partager ce parc. Hein, c'est la devise de la communauté de communes Val d'Ille-Aubigné, valoriser, partager ce parc afin d'en faire un parc pour tout le monde. Ce qui nous a un peu fait rire quand même, c'est que le magazine de septembre-octobre de la communauté de communes, dont Sens de Bretagne fait partie, fait tout un axe de travail et de communication autour de la nature, de la préservation des grands arbres, mais pas pour Sens de Bretagne a priori. Pourtant, Sens de Bretagne, c'est bien une ville où on vit, c'est pas le bout du monde, et on a envie d'avoir une qualité de vie. Quand je disais au début que Sens de Bretagne était traversée par une départementale, ça crée une artère avec beaucoup de passages et qui est assez peu sécurisée en fait. Et le parc, s'il devenait un jardin public, il permettrait de faire la jonction entre plusieurs zones dans la ville et de manière douce et sécurisée. Donc ça, c'est un argument important, je pense. Et la deuxième chose, c'est qu'on est dans une zone à urbaniser prioritairement, hein, selon le PLUI, dans le parc. Mais il faut savoir qu'il y en a trois autres classées de la même façon sur la ville et que donc il y a d'autres zones prioritaires qui peuvent être urbanisées.
Votre mobilisation, elle est assez récente et elle prend là une tournure un peu urgente puisque les travaux commenceraient là au mois de septembre. Au mois d'août, vous avez organisé un événement festif pour partager votre combat. Vous avez aussi lancé une pétition en ligne sur le site mesopinions.com qui a rassemblé plus de 13 000 signatures. Et dernièrement, c'est comme ça que j'ai eu vent du sujet, vous avez sollicité les élus locaux par email pour qu'ils viennent sur le terrain voir ce parc, voir ces arbres. Est-ce que vous avez eu des retours? Est-ce que ce sujet interpelle certains élus?
Alors, on n'a pas eu de retour officiel, mais on sait que ça discute. pas encore de retour officiel.
Votre point commun avec le collectif Illéthique, auquel on va arriver dans une minute, c'est d'être soutenu par cette association rennaise qui s'appelle La Nature en Ville. Elle est bien identifiée ici à Rennes, association environnementaliste qui a connu parfois des victoires, d'autres fois des défaites, notamment face à la ville de Rennes sur des dossiers d'abattage d'arbres. La Nature en Ville, mais aussi l'association Nature Environnement Thorigné-Fouillard, Annette. Comment est-ce que vous percevez là ce soutien d'autres associations? J'imagine que ça permet de se sentir peut-être un peu moins seul sur des sujets qui parfois ont du mal à mobiliser les habitants d'une commune, je ne sais pas comment c'est, à Sens de Bretagne.
Alors, on est soutenu effectivement par La Nature en Ville depuis le début, également Annette, mais aussi Arbre, Eau et Rivières de Bretagne, Boule et Pic pour les hérissons, et enfin Bretagne Vivante. Donc on a une fédération d'associations là, qui nous soutiennent, et donc ça c'est très important pour nous. Et du côté des habitants, eh bien, on voit bien qu'il y a quelques personnes que ça dérange notre action, mais la majorité dans ce qu'on entend sur le trottoir, c'est les gens qui nous soutiennent et qui ne comprennent pas et qui trouvent que c'est aberrant ce projet.
Je me tourne vers Patrick Bergonier, également en studio. Vous êtes donc membre du collectif Île Éthique, remonté contre cette fois le projet Île 3 sur la commune de Noyelles-Châtillon-sur-Sèche, vraiment juste à côté de Rennes. Une future zone d'activité qui prévoit là l'artificialisation de 15 hectares de terres agricoles. On dit de quand il date peut-être ce projet. Il y a donc déjà deux zones d'activité, 1 et 2, et là la troisième qui je crois a été votée en conseil métropolitain.
Au mois de février l'année dernière, sauf erreur de ma part. Ce projet, il existe depuis, et attention, ça va faire sourire, ou pas, 2007. Voilà, c'est un projet qui est ancien, qui avait été imaginé à l'époque, à un moment où les questions écologiques étaient déjà très importantes et présentes quand même dans notre société, mais où, j'ai envie de dire, les logiciels de pensée des politiques, mais aussi des citoyens, étaient quand même différents. Il n'y avait pas la même urgence, il y avait... Bon, voilà.
Il faut dire que la première zone d'activité, elle date des années 80.
Oui.
Et les unes après les autres, elles ont rempli hein, les sites qu'elles avaient pour, a priori, d'après le maire de Noyelles-Châtillon-sur-Sèche, aujourd'hui affiché complet, il reste très peu d'espace, d'où l'idée d'aménager sur une terre agricole une nouvelle zone.
Effectivement. Alors là, on a un vrai désaccord avec Monsieur Guéret, donc le maire de Noyelles-Châtillon-sur-Sèche, parce que pour nous, il y a deux choses. Enfin, il y en a même trois. Premièrement, les ZAC Île 1 et Île 2 ne sont pas entièrement utilisés. Nous, ce qu'on a relevé, c'est qu'il y avait encore des terrains disponibles. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, quand même, sur ces ZAC, c'était pour de l'artisanat, on retrouve quand même de l'habitat. On retrouve...
Des gens, je crois, qui ont leur activité professionnelle
alors,
sur place.
Qui avaient, et qui ont eu le droit de construire leur maison pour être à côté de leur activité. Ça, pas de souci. Et puis, qui ont arrêté leur activité. Mais qui aujourd'hui ont toujours leur maison. Donc on retrouve de l'habitat, on retrouve les cours de tennis de la commune, on retrouve un hôtel, et puis effectivement on y trouve des artisans, ça il n'y a pas de souci. Je veux juste repréciser un petit quelque chose, vous avez dit Noyelles c'est à 10 km de Rennes. En fait Noyelles ça touche Rennes. C'est juste à côté. Et le Île 3, en fait, c'est à l'entrée nord de la ville. C'est-à-dire que c'est de l'autre côté de la rocade.
Au niveau de l'écomusée de la Bintinet, que certains auditeurs connaissent peut-être.
Tout à fait. Ce qui veut dire qu'en fait, ça ne touche pas que les habitants de Noyelles-Châtillon-sur-Sèche, mais ça touche bien tous les habitants de... Alors, déjà de Rennes, des quartiers sud, mais de toute la métropole. Et en fait, c'est un projet... qui est menée par Rennes Métropole, qui est menée bien sûr par Madame Appéré en tant que présidente du Conseil métropolitain.
J'ajoute que la zone qui est concernée, donc ce sont des terres agricoles sur lesquelles... Au mois de septembre, là, il y a ou il va bientôt y avoir des fouilles menées par l'INRAP, l'Institut National de Recherche en Archéologie Préventive. À chaque fois, il y a des fouilles de menées pour voir si on trouve des objets qui seront ensuite collectés avant que les travaux n'aient lieu. Travaux de viabilisation qui sont annoncés pour 2024. Dans le collectif Île Éthique, aujourd'hui, vous êtes une vingtaine d'habitants. Je voulais redonner un petit peu le cadre. Il faut le dire aux auditeurs, Rennes Métropole a pour objectif de réduire par deux son artificialisation de terres naturelles ou agricoles d'ici 2030 pour arriver au fameux zéro artificialisation nette d'ici 2050. Donc d'ici là, il va y avoir un mouvement progressif de réduction de l'artificialisation. D'ailleurs, on nous dit que ce mouvement il est déjà bien entamé parce que par rapport aux 219 hectares qui étaient artificialisés chaque année entre 1982 et 2000, la métropole rennaise n'est aujourd'hui plus qu'à, là, on en dit ce qu'on en veut, à 137 hectares par an, alors qu'il y a plus d'habitants, plus d'activités qu'à l'époque. L'argument des collectivités locales là, sur ce projet du Île 3, c'est de répondre aux sollicitations d'acteurs économiques qui disent avoir du mal à trouver du foncier pour s'installer. Vous le percevez comment cet argument-là ?
Alors cet argument, il est extrêmement difficile à vérifier parce qu'en fait, c'est dit oralement et par le maire de Noyelles et par Monsieur Le Gagneur, donc qui lui est conseiller métropolitain en charge de ce projet. En fait, leur argument, c'est nous recevons tous les jours des artisans qui nous appellent pour trouver des terrains, pour s'installer. Voilà, donc ça, c'est invérifiable. La réalité, c'est que ce projet, en fait, il y a d'autres choses derrière que nous, citoyens, avons du mal à voir, mais il y a des volontés politiques, il y a des enjeux politiques. Il n'y a aucune étude qui prouve ce que la métropole avance en disant qu'il y a des besoins de terrain et de créer une zone artisanale pour les artisans.
Ce qu'on sait, c'est qu'il y a le besoin de terrain, par contre, pour les cuisines centrales de Rennes et d'autres communes alentour.
Alors, on va y venir, parce que des terrains aujourd'hui, on va dire en friche, et qui pourraient être utilisés, il y en a. Et dans la commune d'à côté de Noyelles-Châtillon, vous avez Chartres de Bretagne. À Chartres de Bretagne, on sait très bien qu'il y a l'usine automobile Peugeot-Citroën, enfin Stellantis maintenant, qui ne cesse de décroître en termes d'occupation de terrain et de production, etc., etc. Donc à cet endroit-là, par exemple, vous avez 80 hectares aujourd'hui, sauf erreur de ma part, mais on est dans ces eaux-là, 80 hectares qui ne sont plus utilisés.
On comprend votre souhait de plutôt voir des friches industriels aller à ce genre de projet de zone d'activité plutôt que des terres agricoles, là comme c'est le cas des terres agricoles, les compensations, notamment une zone humide de 2000 m² créée au cœur du site, qu'est-ce qu'on en fait de ces promesses de compensation qui d'ailleurs sont obligatoires souvent sur ce type de projet.
C'est-à-dire que ça compense rien. C'est ça le problème. Sur le site, il y a des animaux qui sont protégés, dont une espèce de vipère, Pelliade, si je me souviens bien, et un triton. Ils sont là, ils vivent là, c'est leur milieu naturel. Et en fait, là où ils vivent, ça va être asséché. Donc, on fait la compensation ailleurs, y compris pour ces animaux. Mais ça compense rien, c'est-à-dire que ces animaux-là vont disparaître. On va me dire, trois tritons, deux vipères, ça va, quoi, c'est pas bien grave. Ben si, c'est grave, parce qu'on fait ça avec les vipères, on fait ça en abattant des arbres centenaires, on fait ça en détruisant 6 hectares de terres agricoles en bio, etc., etc., etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a pas de petits dégâts, il n'y a pas de petites causes, il n'y a que des vrais combats importants dans la situation dans laquelle nous sommes. On est aussi aidé, soutenu par un certain nombre d'associations.
Il y a la Nature en Ville, il y a le Parti de Gauche aussi.
Il y a la Nature en Ville, il y a Alternatiba, il y a Coup Dur. Et moi, l'appel que j'ai envie de lancer, je conclue là-dessus, c'est, je pense qu'il est urgentissime que les collectifs, les associations et tous ceux qui veulent protéger aujourd'hui et faire autrement, eh bien qu'on essaye de se regrouper, de se retrouver. Et moi, voilà, un appel que je lance, c'est l'union fait la force. Donc, autant que possible, essayons de combattre ensemble.
Je vous représente, Patrick Bergonnier, vous êtes membre du collectif Île Éthique du côté de Noyelles-Châtillon-sur-Seiche à deux pas de Rennes. Anaïs, vous êtes membre d'un autre collectif, Arocaria, sur le territoire de Sens de Bretagne. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci beaucoup.
Pourquoi les oiseaux migrent au printemps ? Pourquoi le soleil suit la lune ? Certains arbres sont si grands alors que d'autres sont si petits. Pourquoi hier, pourquoi demain? Pourquoi ces gens-là dansent alors que d'autres courbent le dos? Alors que d'autres sont si petits.
son morceau Les Oiseaux sur Canal B. C'est une nouveauté musicale qui a été repérée pour vous par Yann, notre programmateur ici à Canal B. Un titre à retrouver sur l'album Pourquoi certains arbres sont grands. C'est sorti le 29 septembre chez Le Turc Mécanique et Another Records. Et c'est le quatrième disque de ce duo pop, mais d'une pop bien singulière, duo originaire de Villeurbanne. L'Arène, l'émission d'info locale de Canal B, continue tranquillement et va même bientôt se terminer, je vous l'annonce. Mais chaque jour, d'abord, une recommandation du jour. Aujourd'hui, signée Corentin, volontaire en service civique.
En octobre, tous dehors, c'est la recommandation du jour. C'est organisé par le Réseau d'éducation à l'environnement de Bretagne, une association qui œuvre pour l'éducation à l'environnement sur le territoire breton. Suite au bilan très positif de ces 30 jours pour l'environnement organisés en octobre 2022, le réseau a décidé de réitérer l'expérience et de pérenniser l'événement dans le temps. En octobre, tous dehors, c'est donc, sur tout le mois d'octobre, des centaines d'animations et sorties nature pour le grand public partout en Bretagne. Comme les 30 jours d'éducation à l'environnement, cet événement a pour objectif d'inciter les petits comme les grands à sortir et à découvrir les bienfaits de la nature. Durant tout le mois d'octobre se dérouleront des balades, des ateliers créatifs, des projections ou même des dégustations. Des ateliers organisés en ville, dans les bois ou en bord de mer pour faire découvrir la faune et la flore, mais également des légendes bretonnes ou même des techniques de tressage végétal. Du côté de Rennes, on peut vous conseiller un atelier « Commencer son jardin potager naturel » où vous pourrez apprendre différentes méthodes agroécologiques pour commencer votre potager en prenant soin d'un sol vivant. C'est un atelier coûtant 15 euros par personne et ça se passe mercredi 18 octobre à 15h au Jardin des Mille Pas, chemin Robert de Boron à Rennes. Si vous voulez découvrir les traces du martin pêcheur d'Europe et des autres espèces qui vivent autour du canal Saint-Martin, rendez-vous le samedi 21 octobre devant le 106 canal Saint-Martin à Rennes pour une déambulation à la découverte de la faune autour de ce canal. Un atelier organisé par les équipes du fanzine rennais Cuicui. C'est à prix libre et conseillé à partir de 10 ans. Et enfin, le mercredi 25 octobre, au parc de l'An 2000 à Bru, la LPO Bretagne et la ville de Bru vous proposent une balade nature pour découvrir la petite faune sauvage. Vous pourrez vous promener entre les allées boisées, les prairies et les zones humides et mettre tous vos sens en éveil pour déceler les indices prouvant la présence de certaines espèces. C'est de 10h à midi et c'est gratuit. Si vous voulez vous inscrire aux événements ou avoir plus d'infos concernant tout ce qui se passe dans le cadre de En Octobre Tous Dehors, toute la programmation du mois est disponible sur le site www.tousdehors.bzh.
L'Arène, c'est terminé. Une émission d'info locale qui se veut réflexive et combative à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast et pour, pourquoi pas, s'abonner à la newsletter Le Courrier de l'Arène, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus. Salut.